Vous êtes sur RTL.
RTL.
RTL Matin jusqu'à 9h30.
Vincent Parisot.
Et à 8h sur RTL, le journal est signé Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. C'est d'abord ces arrêts maladie qui posent question. À la RATP, le nombre d'agents qui se sont fait porter pâle a été multiplié par 3 depuis le début de la grève. Information de nos confrères du Parisien, les syndicats dénoncent une manipulation. Au 20e jour de grève, le trafic reste très perturbé à la RATP comme à la SNCF et sur les routes aussi. Conséquence, certains taxis ne veulent plus appliquer les forfaits vers les aéroports. Les négociations sur la réforme des retraites doivent reprendre le 7 janvier. D'ici là, que fait Emmanuel Macron? Réponse dans ce journal. À suivre également ces gros hypocrites de Brexiteurs. Ils ont soutenu la sortie de l'Union Européenne, mais ils cherchent maintenant à garder un passeport européen. 2 anniversaires, 40 ans pour la fusée Ariane et 100 ans tout rond pour le peintre de l'Outre Noir Pierre Soulages. Et puis on n'oublie pas que c'est Noël. On a testé le réveillon 100% local et on va vous emmener dans les coulisses des illuminations de Noël.
RTL Matin.
Vous entendez ça?
Bah oui, les grelots des rennes qui tirent le traîneau.
Eh oui, ça sent Noël ou je ne m'y connais pas. Nous sommes à quelques heures du réveillon et bien sûr, on va parler bonne bouffe dans ce journal. Mais vous le savez, cette année est un peu spéciale. C'est un Noël sous le signe de la grève. Avec cette question ce matin, les employés de la RATP auraient-ils trouvé un moyen pour faire grève tout en étant payés? Selon nos confrères du Parisien, depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, les arrêts maladie ont été multipliés par 3. Bonjour Romain Houg.
Bonjour.
Par 3, et encore, hein, ce n'est qu'une moyenne.
Ah oui, on ne peut le dire en effet, hein, puisque le journal pointe un pic le 19 décembre dernier avec pas moins de 646 arrêts maladie déposés pour cette seule journée. Chez les conducteurs de métro, c'est presque 5 fois plus que l'année dernière. Un taux d'arrêt maladie donc très élevé chez les conducteurs de métro, mais le constat elle-même chez les chauffeurs de bus et les conducteurs de RER. Alors, vient une question, les grévistes se font-ils porter pâle pour éviter de perdre de l'argent? Non, répondent les syndicats, selon eux, les arrêts maladie ne sont pas posés pour faire grève, mais à cause de la grève et du stress qu'elle génère chez les employés. Passagers mécontents, trafic dense, pression des grévistes sur les non-grévistes. Bref, autant de facteurs qui peuvent peser psychologiquement sur les salariés et donc, toujours, selon les syndicats, peuvent expliquer l'explosion des arrêts maladie à la RATP.
Merci Romain Houg. En tout cas, les négociations sur la réforme des retraites vont reprendre le 7 janvier, notamment sur la question de la pénibilité.
Oui, en attendant, la grève continue. Le taux de grévistes est au plus bas, hein, en dessous des 10% pour la première fois, mais près d'un conducteur sur deux reste mobilisé. Le trafic reste donc très perturbé dans les transports. À la SNCF, prévoyez aujourd'hui 2 TGV sur 5 en moyenne, 1 intercité et 1 transilien sur 5, 4 TER sur 10. À la RATP, toujours 6 lignes de métro totalement fermées, trafic partiel et uniquement aux heures de pointe pour les autres, à l'exception des lignes automatiques. Pour le RER, comptez 1 train sur 2 sur la ligne A et 1 sur 3 sur la ligne B. Et en surface, trafic presque normal sur le réseau tramway et environ 2 bus sur 3. Attention, à partir de ce soir, plus aucun transilien jusqu'à demain soir, voire jeudi matin. Et pour le métro, pas beaucoup mieux. Trafic très très réduit demain, à peu près comme dimanche dernier. À cela, il faut ajouter la crainte d'une pénurie d'essence. 20% en moins à la pompe dans les prochains jours, ça c'est ce que dit la CGT. En effet, l'arrêt total de la raffinerie de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône a été enclenché dimanche. Celle de Grand-Puy en Seine-et-Marne pourrait suivre.
Pas de transport et beaucoup d'embouteillages, hein, surtout en région parisienne. Ça, c'est un sacré problème pour les taxis.
Oui, normalement, entre Paris et les aéroports de Roissy et d'Orly, ils sont tenus d'appliquer un forfait, mais avec ces bouchons tous azimuts, pour eux, ce n'est plus rentable. Du coup, certains s'exonèrent du forfait. Alors, c'est illégal, mais pas le choix. C'est ce qu'explique Zina au volant de son taxi. Les trajets sont trop longs.
Je l'ai vécu, donc j'ai mis 2h45 pour déposer le client. Je lui dis, voilà, j'ai perdu un temps précieux, pratiquement 3 heures pour 50 euros. Il m'a dit, c'est pas mon problème, c'est comme ça. Je suis désolée pour vous, mais moi, c'est pas mon problème. C'est compréhensible. Quand on prend un client et qu'en moyenne, on met entre 40 et 50 minutes pour le déposer, pour un forfait, c'est correct. Mais quand on met 2 heures, voire 2h30 pour aller à l'aéroport, on perd un temps précieux, vraiment très très précieux. On perd énormément de temps, donc on demande au client d'être compréhensible, de se comprendre que perdre 2h30, on est perdant. Sachant que quand on dépose, on n'est pas forcément sûr de redescendre chargé. On ne peut pas se permettre de travailler à perte. On n'est pas des voleurs, mais on ne veut pas non plus faire des pertes. C'est vrai que c'est dur.
Zina, chauffeur de taxi au micro RTL d'Arnaud Touche. On le disait, reprise des négociations sur la réforme des retraites le 7 janvier. D'ici là, le gouvernement est en vacances, enfin plus ou moins. Les ministres restent joignables et mobilisables à tout instant. Et le président dans tout ça est Marie-Bénédicte Allaire.
Eh bien, les vacances du président ne sont pas à sujet, dixit l'Élysée qui se refuse à révéler où Emmanuel Macron passera Noël. L'an dernier, on avait su après coup que le chef de l'État avait séjourné au fort de Brégançon sur la commune de Bormes-les-Mimosas dans le Var. En pleine crise des Gilets jaunes, il avait en effet opté pour la sobriété, contrairement à l'année 2017 où on avait pu le voir dévaler à ski les pentes de la Mongie qu'il affectionne depuis son enfance et s'approcher des micros et caméras qui le traquaient. Mais en cette fin d'année, il y a fort à parier qu'en plein conflit sur les retraites, Emmanuel Macron optera de nouveau pour la discrétion, même s'il n'est pas exclu qu'il fasse quelques apparitions pour montrer qu'il est attentif aux difficultés des Français, notamment pour se déplacer. La prochaine intervention solennelle du président, ce sera les vœux télévisés du 31 décembre. Trop tôt pour dire s'il se saisira de l'occasion pour imprimer sa marque ou s'il laissera le Premier ministre en première ligne à quelques jours de la reprise des négociations sur les retraites.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. Bon Isabelle, vous nous l'avez promis, il est temps maintenant de parler du réveillon et si je peux me permettre, du bon petit gueuleton qui se prépare.
Oui, vegan, sans gluten. Alors le réveillon a un petit peu changé de look ces dernières années. Mais
c'est moins gay je trouve.
Enfin, l'une des tendances de cette édition 2019, c'est aussi de manger local. Ça c'est plutôt festif, vous allez voir. Un dîner de Noël 100% terroir, c'est la mission que nous avons confiée à Denis Grandjou, correspondant d'RTL en Nouvelle-Aquitaine. Denis, vous êtes allé voir des producteurs locaux tout près de chez vous.
Oui, pour l'entrée, on va rester en Gironde avec le foie gras.
À la ferme du Moulinat, la famille Fazenbat à Loubens.
Un foie gras que Philippe prépare avec sa fille Amélie, un produit qui a reçu le label de meilleur foie gras du Sud-Ouest en 2019.
On fait cuire 45 minutes en haut à bain-marie pour une petite terrine.
Pour le plat, direction le Lot-et-Garonne avec un bon gros chapon de 3,5 kg, 4 kg. Hugues Faure est le président du groupement des producteurs de chapons de Grignol.
Il faut que la volaille soit bien jaune, donc là c'est un signe de consommation du maïs, et puis qu'elle soit grasse, qu'elle soit belle, qu'il y ait 6 mois d'élevage.
Et figurez-vous que les chapons du nord et du sud ne sont pas tout à fait les mêmes.
Le nord de la France consomme des produits blancs. Le chapon de Brest, plus blanc, mais il est ici dans le sud, si c'est pas jaune, c'est pas mangeable.
Il nous reste le dessert, alors pourquoi pas une jolie bûche traditionnelle du pâtissier Pierre Mirgalet, meilleur ouvrier de France à Gujan-Mestras.
Avec une crème glacée, avec du bon lait des Alpes, et de la bonne crème, tout ça entouré d'une nougatine évidemment faite maison et une meringue un peu coulante à l'intérieur.
J'en veux en fait.
Du foie gras, du chapon, une bûche pâtissière, eh bien pour la digestion, me direz-vous, surtout pas de digestif. C'est totalement déconseillé dans ses chroniques sur RTL par le docteur Simès. Alors j'ai pensé à un instrument du Sud-Ouest, histoire d'esquisser quelques pas de danse après ce bon repas avec une cornemuse des Landes, attention, un instrument, écoutez tout de même avec modération. Et puis surtout, joyeux Noël!
Alors ça, c'est la cornemuse des Landes. Donc, oui. C'est une spécialité landaise qu'on ne connaissait pas. C'est quand même aussi la cornemuse, hein, on le rappelle, une spécialité. Alors, des Bretons et des grands Bretons, nos amis anglais. Tiens, ben justement, parlons-en du Royaume-Uni. La reine va prononcer tout à l'heure sa traditionnelle allocution de Noël.
Et avant elle, c'est Boris Johnson qui a adressé un message aux Britanniques. Dans une vidéo, le Premier ministre les appelle à ne pas trop se disputer avec leur belle famille ou qui que ce soit d'autre.
Bon, c'est valable pour les Français aussi.
Ça vaut pour tout le monde. Le mot Brexit n'est jamais prononcé, mais évidemment, on ne pense qu'à ça. En ce moment, outre-Manche, beaucoup de citoyens cherchent des moyens de conserver un passeport européen, y compris ceux qui ont milité pour une sortie de l'Union, Marie Billon.
Certains Britanniques europhiles se prennent à rêver d'un statut de citoyen européen associé. D'autres ont demandé la nationalité de leurs époux, français, italiens ou autres, s'ils en avaient le droit. Tout pour garder un passeport européen et conserver le droit de vivre et travailler dans l'UE après la sortie. Mais les eurosceptiques ne sont pas en reste non plus. Plusieurs généreux donateurs des conservateurs, le seul parti capable de faire le Brexit, disait-on lors de la campagne, ont fait jouer leur porte-monnaie. L'un d'eux a donné l'équivalent de plus de 7 millions d'euros aux Tories ces dernières années. Il a demandé la nationalité chypriote. Alors pourquoi Chypre? Car nul besoin d'y avoir jamais mis les pieds pour en devenir citoyen. Il suffit d'avoir quelques 2 millions d'euros à y investir. L'immobilier est un placement privilégié car il est peu taxé. Mais en faisant ces démarches, les critiques estiment que ces hommes d'affaires font deux choses. D'abord, preuve d'hypocrisie. Ensuite, ils montrent qu'ils ne sont pas certains que, contrairement à ce que dit le gouvernement conservateur, le Royaume-Uni soit promis un avenir brillant hors de l'Union européenne.
Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Lui, il reste européen, Cavani, mais pas parisien. Cavani et le PSG, c'est fini, ou presque. Le meilleur buteur de l'histoire du club doit signer avec l'Atlético Madrid. Un accord a été trouvé. Le transfert devrait avoir lieu dès cet hiver, alors que le contrat de l'Uruguayen courait jusqu'à juin. Cavani qui s'en va un peu contraint et forcé, faute de temps de jeu. C'est Noël ce soir, on l'a dit, mais c'est aussi un anniversaire, celui de la fusée Ariane. Concrétisation du programme spatial européen lancé quelques années plus tôt. Premier décollage le 24 décembre 79, Sophie Jousselin.
Oui. La fusée Ariane s'élève toute droite dans le ciel.
À ce moment-là, Michel Mignot est à Kourou dans un bunker à quelques centaines de mètres de la fusée. À l'époque, il est ingénieur et a dirigé la construction du pas de tir quand Ariane 1 s'arrache du sol.
Il y avait une telle tension qu'on peut comparer ça qu'à un orgasme amoureux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà au décollage, mais la mission n'était pas finie. Quand on regardait comment se comportait le premier étage, le deuxième étage, l'allumage du troisième étage. Et c'était un succès total, un cadeau de Noël extraordinaire. C'est très émouvant, même 40 ans après.
Il y a quelques semaines, un autre pionnier d'Ariane était sur le toit du bunker.
Ça me rappelle énormément de souvenirs.
Guy Dubos se souvenait du premier tir avorté d'Ariane le 15 décembre 1979.
J'étais celui qui remettait en état la fusée. Si d'aventure il y avait un tir avorté, c'était totalement impossible de penser qu'on pouvait avoir ça, et pourtant on l'a eu.
Et c'est grâce à ses équipes qu'Ariane 1 décollera le 24 décembre.
À la dernière tentative possible, parce qu'on avait usé toutes nos réserves d'hydrogène, tout l'hélium, fallait qu'elle parte, et elle est partie.
À la retraite aujourd'hui, Michel Mignot est conscient d'avoir vécu une grande aventure.
On savait qu'on allait se battre pour une aventure qui ne soit pas sa lendemain. Les projets s'enchaînaient. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. C'est une aventure humaine extrêmement forte.
Et il suit avec attention la construction d'Ariane 6, dont le premier vol est prévu à la fin de l'année prochaine.
Et l'aventure continue, récit RTL, signé Sophie Jousselin. C'est aussi son anniversaire, pas Sophie Jousselin. Il est beaucoup plus vieux que la fusée Ariane.
Oh, n'exagère rien quand même, 60 ans de plus.
Voilà, Pierre Soulages a 100 ans aujourd'hui. Et pour fêter ça, le Louvre expose en ce moment une vingtaine d'œuvres du créateur de l'Outre Noir. Alors Pierre Soulages, 100 ans, ça fait quoi?
Je ne vais pas dire que je m'en moque, c'est évident.
Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui?
Toujours... Dans l'interrogation de ce que je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fier de ce que vous avez fait?
Fier? Non. Étonné de ce qui m'arrive, oui.
Pierre Soulages qui répondait au micro RTL de Monique Younes.
Bon anniversaire, monsieur Soulages.
Un peu plus vieux que Pierre Soulages encore, la France a décidé d'interdire l'exportation du tableau de Cimabue, le Christ moqué. Un petit panneau peint d'une vingtaine de centimètres retrouvé chez une vieille dame à Compiègne et vendu 24 millions d'euros fin octobre. Cette œuvre rarissime du 14e siècle annonce la renaissance italienne.
Il est bien votre journal, il est
gentil,
complet. Il manque quelques illuminations?
C'est pas faux, effectivement. En ce 24 décembre, il nous manque les illuminations de Noël, comme chaque jour. On vous emmène en...